part?
Bien, je pense que on a des leçons à tirer de 1995. Une de celles-là...
Est-ce que ce sont les mêmes que celles de Mathieu?
Non. En tout respect.
Surprise!
Certes. Je dirais...
Je respecte les parties à 8%. Certes.
Ben, son nom, là...
Moret.
Ben, en tout cas, ce nom-là...
Moret.
Ben, je sais pas, il m'inspire.
Live.
Avec Dominique Moret. Live. Radio X.
Mathieu Bocoté, salut, comment ça va?
Très, très bien, toi?
Très bien. Comment ça a été hier, ta belle rencontre avec Ruba Gazal? Et ça a été la première fois que t'en rencontrais?
Non, je crois l'avoir déjà croisé, mais nous étions tous les deux sur le plateau représentant de deux variétés très différentes de l'indépendantisme québécois. Mais la rencontre était surtout avec, comment s'appelle-t-il, Jean-Sébastien Girard, qui s'est mis dans l'esprit de... qui s'est fait le porte-parole des accusateurs classiques sur le mode de fermeture à l'autre, pli sur soi et tout ça, et qui connaissait assez mal, je crois, l'histoire du mouvement nationaliste de René Lévesque et ainsi de suite. Donc j'ai eu l'occasion de lui donner une toute petite leçon d'histoire qui lui a été utile, je crois.
Pour le reste, oui, on va parler de ton livre, mais tu sais, pour reprendre la balle au bon, quelle leçon tu tires du dernier référendum? Tant qu'à t'avoir en ligne, on va parler de ça un peu, puis évidemment, on va parler des deux accidents. Mais t'en dis quoi?
Pour les deux référendums, la principale leçon, c'est que le Québec ne doit pas faire confiance, d'abord et avant tout, à la bonne foi du fédéral dans tout ça. Il ne faut juste pas oublier, et Lisée l'a rappelé récemment dans une chronique, que Ottawa, sachant que le référendum s'en venait en 1995, plusieurs mois avant le référendum et même, une année ou deux avant, décide d'accélérer la fabrique à citoyenneté, autrement dit, accélérer les naturalisations pour augmenter le corps électoral, la part électorale qui se reliera probablement au camp du non. Ottawa, qui par ailleurs ne respecte pas les règles de financement populaire que le Québec s'est donné en 1995, la leçon positive qu'on peut se donner inversement, c'est que le camp du oui en 1995 n'a été capable de progresser autant qu'en rassemblant très largement. Donc en 1995, comme je disais hier, il y avait Éric Duhaime dans le camp souverainiste, et il y avait aussi Françoise David. Et dans le camp du oui demain, il y aura, par exemple, Maxime Bernier, qui a déjà dit qu'il voterait oui. Et puis, j'espère qu'il y aura aussi Ruba Gazal, parce que dans le Québec indépendant, il va y avoir des gens de gauche aussi, des gens de gauche radicale. Il va y avoir, je l'espère, Guy Lepage. Puis si je ne me trompe pas, Jeff Fillion a déjà voté oui en 95. Donc moi, je suis partisan
de la mais j'ai voté oui en 95. Moi, je suis des estrades ou...
Ben, si tu me dis que tu as voté oui en 95, ben, je ne le savais pas, tu me réjouis. Mais par ailleurs, je crois que tu as tout à fait ta place dans le camp du oui, si tu veux le rallier, évidemment. Donc moi, il y a de la place dans le camp national, en fait, je pousserais ça assez loin. Il y a de la place pour Marie-Louise Arsenault, pour toi, pour Jeff Fillion, pour Guillaume Lepage, pour Éric Duhaime, pour Françoise David. Autrement dit, la leçon de 95, c'est que tous ceux qui considèrent que le Québec est leur pays devraient se rassembler sous cette coalition parapluie, tout en sachant qu'ils n'ont rien en commun à part ce désir d'indépendance.
C'est sur l'aspect de faire le Québec un pays, moi je pense qu'on peut certes discuter, mais il y a beaucoup de mais. T'sais, prenons l'exemple de Abdel Fadel, c'est ta collègue chroniqueuse à qui tu pourras débattre d'ailleurs peut-être aujourd'hui à la joute, on n'en sait trop rien, qui dit qu'il manque quand même quelque chose dans les sorties de PSPP, dont celle d'en fin de semaine, où on parle de dollars et tout ça. Oui, mais je comprends, le Parti québécois risque de former le gouvernement aux prochaines élections, à moins de revirement de situation magistrale de la part de Pablo et ses amis, on verra bien. Mais qu'en est-il de la gestion de ce Québec qui demeure quand même une province dans le réel? Moi, je suis très réel politique, là. Dans le réel, moi, je comprends qu'on puisse permettre de rêver, mais il y a quand même une horloge, là, il est 9h33 actuellement, il fait 2 degrés dehors. Moi, je suis très réel politique, et dans la réel politique, elle dit, il n'y a pas de plan de gestion du Québec. Sa vision de la santé, c'est quoi? Du développement économique, c'est quoi? De l'éducation, c'est quoi? Mais il n'en parle pas de ça. Il ne parle pas de réel politique.
Si je peux me permettre, il va falloir que tu te branches avec d'autres. La dernière fois qu'on s'est parlé cet été, tu as dit, il serait temps que les souverainistes nous disent ce qu'ils vont faire avec la diplomatie, avec la monnaie. Les souverainistes vont nous dire un peu. Donc, vous nous demandez...
Je ne leur reproche pas de le faire, oui.
Non, mais donc là, les souverainistes disent, c'est vrai, d'accord, on va répondre à la question, quelle sera la grande architecture de Québec souverain? On répond notamment à la question de la monnaie.
Oui.
Quand on répond à la demande qui vous est faite notamment par toi, je m'en souviens, vous nous dites un instant, vous nous expliquez, vous nous dites pas ce que vous allez faire du Québec province. Chaque chose en son temps.
Non, on va pas manger de la gomme puis marcher en même temps. Là. Oui, moi, je veux savoir, on s'en va vers une majorité. Je veux pas que pendant 4 ans, on parle de référendum à tous les jours. Puis pendant ce temps-là, des pédiatres manifestent dehors. Là. Tu sais, je veux pas ça.
On va en parler dans les faits de la première année, parce que le référendum va être assez rapide pour ce que j'en comprends. Pour le reste, le Parti québécois a le programme que l'on connaît. Un programme de centre-gauche qui, ouais, par ailleurs, a le souci de la croissance économique. Un programme qui est une forme de social-démocratie scandinave. Un programme qui se veut assez ferme sur les questions d'immigration massive. Un programme qui veut prendre au sérieux la question de la criminalité à Montréal. Je suis pas le porte-parole du PQ. Moi, j'ai
Non, fais attention à ce que tu dis, parce qu'hier, tu as dit que tu conseillais pas le PQ. Là, tu as quasiment rendu le porte-parole du PQ.
Non, mais justement, non, je vois ça. Je dis comment j'interprète la cause de le programme du PQ en ce moment. Okay. Je ne suis pas conseiller de personne en ces matières. C'est-à-dire, si c'était moi qui donnais des conseils, le PQ serait un petit peu moins, comment dire, serait un peu plus conservateur. Mais le fait est que le Parti québécois a un programme, mais surtout ce qu'il a fait ce week-end. Il a dit, tous ceux qui nous demandent, mais je me rappelle, tu me l'as demandé.
Oui.
François Fournier l'a demandé, qui est un gars que je pense qu'il bosse dans.
Ben, il était en onde il y a une demi-heure.
J'ai beaucoup d'estime pour lui. Oui. Plusieurs autres disent, vous devez nous donner votre plan, parce que sinon, c'est pas sérieux. Puis là, quand le plan arrive, vous dites pourquoi vous nous parlez de ça, vous rêvez. À un moment donné, il faut se brancher.
Non, mais je ne reproche pas de parler de ça, mais je pense qu'il devrait. Il devrait parler d'avant de ce qu'il va faire parce que vraisemblablement, il pourrait être élu. Mais là, on tasse le PQ. Je veux parler de ton livre parce que c'est pour ça qu'on se parle ce matin. Les deux Occidents. OK. Si tu avais un autre titre à donner à ce livre-là qui est exceptionnel, ça serait quoi? Un livre qui a été vanté par beaucoup d'intellectuels français d'ailleurs, puis on en parle. Mais un autre titre pourrait être lequel?
Ben alors, le titre d'origine, mais il était beaucoup trop long et était imbuvable, et mon éditrice a eu raison de me dire non, c'était « Des deux Allemagnes aux deux Occidents ». Autrement dit, ou encore, ça aurait pu être « Histoire des 30 dernières années ». C'est-à-dire que ce que je cherche à montrer là-dedans, c'est comment le régime qui s'est mis en place après la chute du mur de Berlin. Donc, 1989, il y a un cycle qui commence dans l'histoire. C'est le cycle de 1989. Et on aurait pu, à ce moment-là, se contenter de se dire l'URSS est tombée, le communisme est mort, les nations prisonnières en Europe de l'Est sont libérées, l'hypothèse communiste est pour de bon fermée, et on aurait dit bravo. Mais le fait est que 1989, c'était interprété par une partie de nos élites en Occident comme l'occasion, en fait, d'imposer le grand rêve mondialiste dans la promesse de Babel. Donc, c'était la fin des frontières, la fin des nations, la fin des souverainetés nationales au profit d'une gouvernance globale. Le fait que l'État devait verser dans une ingénierie sociale permanente au nom, justement, de la diversité, la déconstruction des valeurs culturelles traditionnelles. Puis ce cycle-là qui commence et qui s'impose très rapidement va s'imposer partout en Occident. Ce que je raconte dans le livre, notamment, j'ai tout un chapitre qui est consacré à une réinterprétation de l'histoire de la droite américaine, mais bon, ce n'est qu'un chapitre. Je montre comment, dès 91-92, il y a des gens qui disent, un instant, ce monde nouveau que vous nous promettez, c'est pas pour ça qu'on se battait quand on se battait contre le communisme. C'est pas pour ça qu'on se battait. Nous, ce qu'on veut, c'est, appelons ça, enracinement, identité, liberté, continuité historique et tout ça. Or, ces gens-là ont été pendant longtemps diabolisés, extrême-droitisés, fascisés. Bon. Et cette révolte-là, on la traitait finalement comme le dernier spasme d'un monde mourant. Mais si on prend la peine de regarder ça en se détachant des mauvaises grilles de lecture, eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est une véritable révolte populaire qui a traversé notre civilisation pendant 30 ans. Pendant longtemps, elle était contenue à la périphérie de l'Europe de l'Est, ou alors en Europe occidentale, elle était contenue au Parlement, dans ce qu'on appelle la fonction tribunicienne, dans le parti populiste. Mais à partir de Trump 1 et du Brexit, qu'est-ce qu'on voit? Le système commence à se dérégler. Et encore plus avec Trump 2, qui, quoi qu'on pense du personnage, qui a tout ce qu'on peut lui reprocher, Trump 2, c'est par ailleurs un mouvement plus profond de restauration, justement, de souveraineté, identité, frontières, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit à travers ça aujourd'hui en Europe occidentale, mais aussi au Canada peut-être, c'est devant, ils ont tellement peur de voir une forme d'épidémie de trumpisme qu'on voit une forme de verrouillage des institutions, de volonté d'instrumentaliser l'État de droit contre le peuple, contre la démocratie, une volonté de censurer de plus en plus les discours qui contredisent le régime, avec la possibilité, comme on l'a vu en Roumanie, d'annuler une élection qui déplaît, avec la possibilité, comme on le voit en Allemagne, d'interdire un parti qui est le principal parti d'opposition, l'AFD, on peut être très critique envers ce parti, mais interdire un parti, c'est original quand même, ou encore une fois avec les polices qui s'opposent aux propos haineux aujourd'hui, ce qu'ils appellent propos haineux, c'est-à-dire en gros des propos conservateurs en désaccord avec le régime. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un Occident qui connaît une forme de nouveau schisme, avec un mur de Berlin numérique et juridique qui se construit, autrement dit, qui se confond avec l'Atlantique, et c'est ce que je cherche à décrire dans ce livre.
Est-ce que tu peux répliquer cette dualité-là dans la politique fédérale canadienne. C'est-à-dire, d'un côté, Poilievre un peu plus, disons, trumpien, en guillemets, j'aime pas le terme, mais regarde, c'est l'Amérique trumpienne versus l'Europe progressiste. Bon. Donc, tu as Poilievre contre les élites progressistes, bien incarnées par Carney, qui, quoi qu'on en pense, est quand même très trudeauiste dans son apologie de LGBTQ. Il a même dit que la culture islamique, c'est la culture canadienne. C'est complètement débile de dire une affaire de même. Là.
Je suis d'accord. En fait, pour la petite histoire, dans une première version du livre, j'avais tout un développement sur le Canada que j'ai laissé de côté finalement. Je me suis contenté d'une brève mention. Mais tu vois bien, c'est-à-dire qu'à mon avis, on a le régime canadien, la classe politique canadienne, a vu dans Poilievre une forme de poursuite du trumpisme, la traversée du trumpisme vers le nord. Et dès lors, ce qui m'a frappé, c'est que Trudeau avait quand même conduit le Canada au désastre. Oui. Le régime trudeauiste était une véritable catastrophe. Il a suffi qu'on change le personnage. On a changé le personnage principal, on a changé la marionnette au sommet, en le remplaçant par Marc Beausévé Carney. Et là, lui, soudainement, on nous dit que c'était le Canada, l'ordre canadien qui se restaurait et qui allait mater les rebelles terrifiants qui étaient les conservateurs de Poilievre. D'autant que Poilievre, il ne faut pas l'oublier, avait un discours plus décomplexé, un discours un peu libertarien dans le bon sens du terme, un discours assez conservateur sur l'identité. Donc Poilievre a été maté à la manière du populisme local canadien. Et tu noteras que quand le régime à Ottawa pèse sur le bouton « diabolisons les conservateurs », il est d'une efficacité absolument redoutable. C'est-à-dire, il suffit de lancer la grosse machine à faire peur, et en l'espace de quelques semaines, une bonne partie de l'électorat prend peur, justement. Donc oui, je pense que ça se vit comme ça, puis je note par ailleurs, d'un point de vue québécois aussi, qu'un ancien conseiller de Justin Trudeau, a dit les nationalistes québécois, si le nationalisme au Québec monte, si le camp du oui monte, ce sera probablement le coup des Russes. Donc, comme on a vu en Roumanie, comme on le voit en Allemagne, comme on le voit en France, un mouvement, dans ce cas-là, nationaliste, pas du tout le même nationaliste, mais on nous dit, c'est la faute des Russes. Donc, encore une fois, les mêmes méthodes antidémocratiques sont utilisées pour mater les peuples.
Ce que j'entends de plus en plus venant de la CAQ ou des classes dirigeantes actuelles, c'est vraiment l'expression de ce que tu décris comme étant l'Amérique populiste, c'est-à-dire le discours la semaine passée de Roberge sur l'immigration. On ne paiera plus l'assistance sociale, c'est fini le BS pour les immigrants illégaux, les institutions débordent, nos garderies, les écoles, etc. De plus en plus, on sent ça. On sent le développement d'un discours conservateur. Est-ce à dire que le conservatisme, ça fait partie de l'identité des Québécois? Moi, je pense que le Québécois dit normal, régulier, moyen, est un conservateur qui souvent s'ignore.
Je l'ai toujours dit, dans un livre antérieur, mais qui a fait longtemps, 2012, fin de cycle, je développais l'idée que le nationalisme québécois était beaucoup plus conservateur qu'on ne le dit.
Oui.
Le fait est qu'il y a eu une confiscation technocratique et progressiste du nationalisme pendant un temps, pendant la Révolution tranquille, mais c'était pas hégémonique. Et après 95, après le référendum de 95, on est tombé dans le piège suivant. C'est parce que Parizeau avait dit l'argent des votes ethniques, les souverainistes ont paniqué, donc ils ont dit on peut plus parler de l'identité historique des Québécois, de la majorité historique francophone. Donc là, on va nous tricoter une identité progressiste et technocratique. Là, c'est un espèce d'étrange deux décennies environ, presque plus, où on nous dit être souverainiste égale être progressiste. Puis ça, ce discours-là a fait le plus grand mal au mouvement national. J'en ai parlé dans deux livres, puis même un peu dans un troisième, j'en ai quand même pas mal parlé. Aujourd'hui, ce que je note, ce qui me frappe, c'est que quand on voit PSPP, puis on en pense ce qu'on veut, puis pour moi, PSPP, c'est pas du tout un trumpien, mais pas du tout, c'est un Scandinave. Les Scandinaves, je pense notamment aux Danois, on a vu là-bas la social-démocratie s'emparer de la critique de l'immigration massive, s'emparer de la critique du multiculturalisme, mais continuer à défendre une certaine idée de l'État social à laquelle les Scandinaves sont attachés. Je pense que PSPP, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit dans certains milieux, tend la main aux éléments plus conservateurs. Lui-même, c'est pas un conservateur, mais il tend la main aux éléments conservateurs.
Mais il devrait préconiser un développement économique beaucoup plus musclé s'il veut jouer aux Scandinaves.
Mais ça, les pays sont pas les mêmes.
Mais les pays sont pas les mêmes. On est foutument plus riches en termes d'hydrocarbures et en termes de ressources dans le sous-sol. Sans qu'on craint... Ben oui. sans qu'on craint. Oui, mais la Norvège, c'est un État pétrolier. Mais regardons la vallée du Saint-Laurent. C'est quand même drôle qu'on parle de ça, parce que c'est François Legault qui l'avait relaté lui-même dans son premier ouvrage sur la richesse du sous-sol dans la vallée du Saint-Laurent. Mais moi, si on c'est ça qui manque pour moi, pour me mettre le feu et avoir le goût de développer un Québec souverain, c'est d'avoir un discours décomplexé de développement économique libre. C'est ça que j'aimerais, Mathieu.
Oui, mais j'entends ça. Puis crois-moi, je ne suis pas contre le développement des ressources naturelles loin de là.
Tu l'as déjà écrit.
Ben oui, mais ce que je te dis, c'est qu'hier soir, par exemple, j'ai sur le panel avec moi Jérôme Gazal. J'ai aussi dans la coalition souverainiste, on peut penser à l'exemple, il y a les syndicats historiquement étaient proches du mouvement national. Je veux aussi avoir dans le mouvement national Dominique Moret. Je veux avoir dans le mouvement national Jeff Pillion. Je veux avoir dans le mouvement national Éric Duhaime. Je pense que tout ce monde-là est capable de voter oui. Mais la condition pour qu'on vote oui, c'est qu'on ne t'accorde pas, on ne lie pas à l'indépendance un projet de société particulier. Ni celui de Dominique Moret, ni celui de Rouba Gazal, ni celui des syndicats. Il faut que le projet d'indépendance ne soit pas inféodé à des préférences idéologiques, puis même pas les miennes. Comme je te dis, moi, je suis assez conservateur, c'est pas un secret. Je suis assez, même assez décomplexé en la matière, mais je comprends que le pays Québec ne m'appartiendra pas à moi. Donc l'idée, par ailleurs, ce dont je suis convaincu, c'est que si on veut, dans une génération, surtout deux ou trois, si on veut demeurer un peuple de langue et de culture française, et pas simplement une population bilingue sur un territoire nommé Québec, eh bien, c'est une population bilingue, puis canadienne d'abord, québécoise ensuite, si on veut demeurer un peuple à part entière, l'indépendance est nécessaire. Ensuite, je peux te jurer que dans un Québec souverain, toi et moi, on risque de voter bien davantage pour le même parti que moi et des gens qui aujourd'hui sont au Parti québécois. Mais c'est simplement, il faut mettre les choses dans le bon ordre.
Tu as parlé d'islamisme hier, j'en parle depuis une dizaine d'années ici en ondes. J'étais le premier à dénoncer le halal il y a 10 ans. J'étais le premier à dénoncer, et puis même il y a encore des preuves de ça sur Internet. Évidemment, c'était islamophobie. Je suis habitué à ça. Il faut faire la différence entre un musulman et un islamiste aussi. Là, c'est les frères musulmans qu'il faut dénoncer. Mais comment trouves-tu qu'on aborde le sujet au Québec? Je sens encore qu'on est complexé par rapport à ça. C'est qu'on a peur des amalgames, c'est qu'on s'est laissé culpabiliser à quelque part. Oui, mais si j'en parle, je passe pour un raciste, j'ose pas, etc. Comment on devrait aborder ça au Québec, toi qui es plus souvent en Europe c'est décomplexé là, quand même comme table de discussion? Oui.
Ils n'ont pas le choix avec ce qu'ils vivent comme réalité. Exact. Moi, je te dirais qu'au Québec, c'est moins. Sur ce point-là, je pense qu'on est moins complexé que naïf. Les Québécois, tu sais, moi, j'ai souvent dit, c'est une boutade sur le Québec, mais globalement, imagine que la Troisième Guerre mondiale est déclenchée pendant les séries éliminatoires, puis le Canadien est en série. Ben, je pense qu'à la une de tous nos journaux, il va d'abord avoir le résultat des séries, puis en page 2, la guerre mondiale. Donc, ça.
Et l'opinion de Martin Saint-Louis.
Il y a quelque chose dans le Québec d'un peu. C'est le propre d'une société qui
bonasse. Est pas indépendante.
Oui, mais on est coupé du monde. C'est-à-dire, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on a un réflexe isolationniste. Ensuite, quand on perd le réflexe isolationniste, on prend un discours en politique internationale hyper kumbaya. Donc là, on dit, ça serait bien que les êtres humains s'aiment, ça serait bien qu'il n'y ait plus de guerre, ça serait bien que tout le monde soit gentil. OK, mais c'est pas comme ça pour les 3000 prochaines années. Donc, il y a au Québec une forme de naïveté.
Oui.
Puis quand on parle de l'islamisme, on a l'impression que c'est hyper minoritaire. Or, si tu regardes en France, par exemple, dans la jeune génération, il y a une majorité de gens, donc pas tous, on s'entend, mais une majorité de jeunes musulmans qui considèrent que la charia est plus importante, la loi religieuse, est plus importante que la loi civile. C'est que ça rend les choses compliquées, là, c'est plus des minorités. Donc ensuite, ça dépend des pays, ça s'intègre mieux dans certains pays, moins bien dans d'autres. Mais tu regardes ce que devient Londres, tu regardes ce que devient la Belgique, tu regardes ce que devient Marseille, le nord de Marseille, tu regardes ce que devient la Seine-Saint-Denis en France. Tu vois que, à partir d'un certain seuil, on entre dans une logique d'une forme d'islamisme conquérant. Puis je suis d'accord avec toi, il ne faut pas mélanger musulmans et islamistes, je suis absolument d'accord, mais je constate que ceux qui portent aujourd'hui les revendications dans l'espace public les plus criantes, c'est moins les musulmans ordinaires que les islamistes qui, par ailleurs, ne sont pas purement non plus marginaux. Mais on est naïf au Québec là-dessus. On a une forme de vision. Pour nous, finalement, les Kalinours, c'est plus un documentaire qu'un dessin animé. Et puis, on en paie le prix dans notre lecture des relations internationales.
Dernière question. Tu vis à Paris et tu viens souvent à Montréal. Es-tu inquiet pour Montréal?
Ah, c'est effrayant. C'est effrayant. Alors, Montréal, je suis inquiet sur trois points. Le premier point, c'est que c'est une ville qui se provincialise sans s'en rendre compte. C'est effrayant, c'est-à-dire que il y a quelque chose à Montréal de bloqué, de comment dire, c'est une métropole qui se prend pour New York sans se rendre compte qu'elle ressemble de plus en plus à Cleveland, premier élément. Donc, il y a une espèce de mollesse montréalaise. Deuxième élément, eh bien, c'est, moi, je m'inquiète des questions d'insécurité, c'est pas un détail. La guerre à la voiture, l'hostilité viscérale envers les classes moyennes à Montréal, ça fait en sorte que les classes moyennes fuient la métropole. Et puis, elles ne les fuient pas pour rien, c'est parce que ça devient objectivement un environnement hostile aux familles. Puis, dernier élément, ça ne te surprendra pas, mais moi, à chaque fois que je reviens ici, je vois à quel point le poids du français baisse. Même dans le quartier où j'habite, qui est un quartier très francophone, ben, il est quand même moins qu'il y a 5 ans, puis encore moins qu'il y a 10 ans. Donc, tout ça fait en sorte que notre métropole, puis moi, je ne suis pas sûr qu'il va abandonner la métropole, son sort m'inquiète, ça ne m'empêche pas d'y être attaché.
Merci beaucoup, Mathieu, pour plaisir. Tu devais venir à Québec, donc...
Ouais, avec plaisir. La prochaine fois que j'y viens, je te fais signe
assurément. Je me suis dit peut-être que tu m'aimes pas.
Oh, pas du tout, c'est parce que je suis paresseux en voiture.
C'est correct. Bon, tu aurais pu demander un lift à Aruba sans revenir à Québec.
Je pense qu'on ne s'aime pas à ce point-là, donc.
La boc mobile n'inclut pas...
ah oui, mais j'inclut tout le monde, mais c'est juste que je prends beaucoup de place.
Ouais. Salut, ben. 9h50 et vous êtes dans Morais Live.
Morais, c'est une bonne idée.
Téléphone, texto, 418-670-9098.
Morais Live.
Radio X.